Écho d'ici, écho d'ailleurs. Dominique Maillard, Guillaume Munier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Écho d'ici, écho d'ailleurs, le magazine qui décrypte chaque semaine pour vous les rouages de l'économie mondiale. Cette semaine, nous vous proposons un entretien au long cours mené avec notre partenaire Jeune Afrique, Julien Clémenceau de JIA est à mes côtés. Bonjour Julien.
Bonjour Dominique.
Et nous recevons aujourd'hui le fondateur, dirigeant du fonds Meridiam, Thierry Déo. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir trouvé un peu de temps pour répondre à notre invitation au moment où votre agenda, paraît-il, se remplit, car les voyages reprennent tout de même un peu. Vous recommencez donc à parcourir le monde à l'affût des projets que votre fonds pourrait financer.
Thierry Déo, votre nom, votre société, votre activité même était il y a peu encore méconnue du grand public. Un fonds, ça sert à collecter de l'argent pour investir dans une opération qui doit être assez séduisante et sûre pour que l'investisseur soit bien rémunéré en retour. Je disais il y a peu, car l'an dernier, Meridiam a accédé à la notoriété en France et dans le monde en se déclarant candidat à la reprise d'une partie des actifs de Suez, le poids lourd français de l'eau convoité par l'autre poids lourd et éternel rival, Veolia.
Alors Meridiam est un acteur prospère qui compte dans le domaine des infrastructures. Comment en êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours? Élément de réponse avec Stanislas Ndaichimier, l'expert RFI de l'Écho africaine avec nous en studio. Bonjour Stanislas.
Bonjour Dominique.
La parole est à vous.
Bonjour Monsieur Déo. Bonjour. Né en Martinique il y a presque 52 ans, vous suivez la voie d'excellence en devenant ingénieur des ponts et chaussées. À 36 ans, après avoir construit pas mal de routes et de ponts, d'Omani à Miami, vous fondez Meridiam. Présent aux États-Unis, en Europe et en Afrique, vous, l'ingénieur devenu financier, insistez sur le caractère d'entreprise à mission de votre groupe. Vous sélectionnez les projets en fonction de leur impact social sur la base des objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Pour réussir dans un secteur très dépendant des pouvoirs publics, vous avez un réseau solide dans le monde des affaires et dans celui de la politique. Vous avez été membre du Parti Socialiste, mais en 2016, vous soutenez Emmanuel Macron. Nos confrères vous présentent souvent comme un proche du président, apprécié pour votre connaissance et vos activités sur le continent africain, où vous accompagnez régulièrement le chef de l'État. Depuis 2014, Meridiam a permis de lever 5 milliards d'euros pour des investissements en Afrique. C'est 8% de votre portefeuille global. D'ordinaire discret, vous êtes sorti de l'ombre l'an dernier en devenant ce troisième homme que personne n'a vu venir dans l'OPA de Veolia sur Suez. Le patron de Veolia, Antoine Frérot, vous a proposé secrètement le rachat de la branche eau de Suez. Cela va faire de vous le nouveau maître de l'eau en France.
Merci Stanislas. Pour compléter, signalons que vous faites partie du classement des 500 plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenge et que vous roulez en Porsche électrique. Julien Clémenceau, allez-y.
Thierry Déo, vous êtes donc l'un des grands gagnants de l'absorption de Suez par Veolia. Fin 2021, Meridiam, à la tête d'un consortium qui réunit l'américain Global Infrastructure Partners, mais aussi la Caisse des dépôts française, va reprendre une partie des activités de Suez, notamment sur le continent, au Maroc et au Sénégal. Était-ce important pour vous de récupérer ces actifs africains?
Bien sûr. L'Afrique, pour Suez, mais pour un certain nombre de... D'autres secteurs représentent une géographie en développement avec beaucoup d'avenir. Parce que le continent africain, c'est un peu l'avenir de l'Europe, j'ai l'habitude de le dire. C'est l'avenir de l'Europe parce que c'est un continent jeune, avec une population qui représentera bientôt plus d'un milliard. Et qui a des enjeux de développement, et notamment dans l'eau, dans les déchets, mais aussi dans les infrastructures essentielles à la vie de tous les jours, des enjeux majeurs.
En reprenant les activités de Suez, vous allez gérer la distribution de l'eau et de l'électricité à Casablanca, de l'eau au Sénégal. Les opérateurs privés se plaignent souvent que ces contraintes ne leur permettent pas d'effectuer les investissements nécessaires au respect de leur cahier des charges. Et on se souvient des passes d'armes entre Veolia et l'État gabonais avant que l'État gabonais ne décide de mettre Veolia à la porte. Est-ce que ce type de relation ne vous fait pas peur ?
Je ne pense pas que les relations sur le continent africain soient différentes des relations avec les collectivités locales en France.
Elles sont aussi dures en France.
Elles ne sont peut-être pas aussi médiatisées, mais c'est des relations qui ont été dures dans plusieurs villes de France. Donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que Meridiem s'est aussi positionné pour Suez, c'est de pouvoir apporter des solutions d'investissement de très long terme pour justement essayer de faciliter cette capacité d'investissement dans les infrastructures locales et dans l'eau en particulier, sans en augmenter le coût pour l'usager et pour la collectivité. Et donc c'est aussi cette capacité qu'on apporte d'avoir un capital plus patient, un capital plus long et qui permette justement d'avoir une eau qui soit à la portée de tous.
Alors là, vous nous parlez du côté de ceux qui vont construire ces infrastructures. Du côté des investisseurs, alors l'Afrique, on le sait, c'est un continent qui a besoin vraiment d'investir massivement dans les infrastructures, entre autres dans le secteur de l'eau, un secteur que vous connaissez bien. Mais on voit que l'Afrique a du mal à lever des capitaux dans ce secteur précisément. Pourquoi cette défiance? Et comment faites-vous pour convaincre les investisseurs que ça peut être un bon rendement, que ça peut être rentable?
Alors c'est vrai que l'Afrique souffre d'une perception de risque assez élevée, pour plein de raisons, et puis que souvent dans les journaux on en a plutôt parlé pour les famines, pour les guerres, pour...
Une perception qui correspond à la réalité?
Pas tout à fait. Alors les investisseurs aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin et une envie d'investir sur ce continent prometteur qui a connu quand même des années de croissance durable. Mais il y a aussi besoin d'accès à ces investissements, à ces projets. Et c'est là que la difficulté est. Il y a beaucoup de capital disponible, notamment du capital public auprès des banques de développement, des multilatéraux, mais aussi du capital privé. Meridiem arrive de façon régulière à réunir les fonds pour ces opérations. Et notre ambition dans les 3 ans qui viennent, c'est d'arriver à 10 milliards d'investissements, tout compris, d'investissement dans les infrastructures en Afrique. Et donc le vrai sujet,
c'est 10 milliards, c'est
la totalité.
C'est un doublement.
C'est un doublement. Oui.
Donc dans quelle sur quelle période?
5 ans, voilà.
Et pour y parvenir?
Pour y parvenir, il faut monter les projets, il faut les préparer. C'est là la grande difficulté. Donc il faut avoir un partenariat très clair et transparent avec la puissance publique. Et ça, c'est important pour la confiance des investisseurs. La transparence et ce qu'on appelle pudiquement l'intégrité dans la régulation est très importante. Et puis aussi, il faut pouvoir bâtir des contrats de long terme qui soient respectés par les autorités. Donc le droit contractuel et le droit est important. La transparence vis-à-vis de la façon dont on s'engage vis-à-vis des collectivités publiques et des États est aussi importante.
Thierry Déo, pour être précis, vous nous dites doubler les fonds investis dans 10 ans, être à 10 milliards d'euros. Vous êtes aujourd'hui à 5. Vous avez un fonds de à peu près 500 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez créer un nouveau fonds, un nouveau véhicule?
Nous sommes en train de créer un nouveau fonds. Alors, pour des raisons de régulation, je ne pourrais pas vous en parler. Sinon, à me faire tirer les oreilles par l'AMF. Mais en effet, nous avons l'ambition, et vous le saurez dans quelques semaines ou dans quelques mois, puisque nous sommes en train de terminer la levée. Voilà.
Très bien. Coup de projecteur sur l'un de vos investissements récemment annoncés en Afrique dans le cadre d'un partenariat public-privé. Vous financez au Gabon la construction d'une centrale hydroélectrique. Elle produira de l'énergie verte pour Libreville, la capitale. Des précisions avec notre correspondant Yves-Laurent Goma.
À cause de l'exode rural, Libreville s'agrandit très vite. Pour faciliter l'accès de tous les résidents à l'électricité, le recours aux centrales thermiques est systématique. La centrale hydroélectrique dite de Kingele Aval en construction permettra au Gabon de sortir des énergies polluantes, a expliqué le ministre de l'énergie Alain-Claude Bilié-Binzé.
Nous visons les 80% de production en hydroélectricité et donc remplacer tout ce qui est énergie thermique produite à partir du gazole.
Le coût du projet est énorme, 179 millions d'euros, soit 117 milliards de francs CFA. Libreville a mobilisé un conglomérat d'investisseurs dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Robert Massumbuko, représentant de la BAD.
Nous accompagnons la transition énergétique du Gabon. Aujourd'hui, il y a encore trop de vieilles centrales diesel qui ne sont pas bonnes pour l'environnement et qui sont chères. clair pour le consommateur. À l'avenir, ça sera de l'hydro, et ça sera moins cher et ça sera vert.
Selon les prévisions, la nouvelle centrale rentrera en production dans 3 ans avec une capacité de 35 MW. En 2024 donc, toutes les centrales fonctionnant au gasoil et au fioul seront arrêtées. Yves-Laurent Gouma, Libreville, RFI.
Julien Clémenceau, Jeune Afrique.
Thierry Déhaut, vous avez à votre actif une quinzaine de projets actuellement en Afrique, des ports, des routes, des centrales solaires. Leur performance financière est-elle la même que ceux que vous menez ailleurs dans le monde? Vous parlez de la perception de l'Afrique qu'ont les investisseurs, vous parliez du risque. Est-ce que le retour est le même?
Toute chose égale par ailleurs.
C'est-à-dire?
Non, mais évidemment, il y a une prime de risque qui est liée à chacun des pays, parce que l'Afrique, c'est quand même beaucoup de pays, ils ne sont pas tous égaux vis-à-vis de cette perception et du coût du risque financier. Donc, on ne peut pas parler de l'Afrique de façon globale. Il faut parler de chaque pays de façon spécifique. Mais la performance, elle est très bien, elle est équivalente.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée à peu près de cette performance?
Alors, c'est difficile de vous donner une idée de performance parce qu'il faut attendre 25 ans pour y arriver. Donc, si vous voulez, les choses se passent bien. Donc, de façon générale, les contrats sont respectés. Donc, les contrats d'achat d'électricité, par exemple, sont payés. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait.
Bien sûr.
Tout cela,
c'est... Mais en pourcentage, par an, le retour, il est de combien si vous faites un plan et si le plan est suivi?
Non, mais ça dépend vraiment une centrale solaire au Sénégal, elle a des retours qui sont pas très éloignés de la même chose en Europe. Parce que le Sénégal bénéficie notamment en ce moment d'un coût du financement pour le pays qui s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, donc on sera plutôt autour des 10-12. Alors que dans un autre pays, on peut, quand on est à Madagascar, on est avec un pays où il y a quand même quelques difficultés en matière d'accès au capital. Là, évidemment, les retours sont plus élevés. Mais ce ne sont, in fine, que des promesses. Il faut d'abord délivrer le service et puis attendre quelques années avant de les avoir. Donc, en fait, quand vous parlez d'investissement sûr avec des rendements élevés, en général, les rendements élevés ne vont pas avec des investissements sûrs. Ils vont avec des investissements risqués. Donc, il y a des vrais risques. On peut perdre son capital en investissant. Et c'est pour ça que cela mérite des rendements qui sont plus élevés.
Vos projets peuvent avoir des rendements très différents d'un pays à l'autre. C'est vrai qu'on parle très souvent de l'Afrique d'une manière globale, alors qu'il y a des particularités pour chaque pays, des dimensions aussi très diverses. Est-ce qu'il y a un point commun à tous ces projets menés sur le continent africain?
Alors, le continent africain a cette particularité que les multilatéraux, la Banque mondiale, ont beaucoup travaillé à la structuration de ces projets de façon historique. Et ce qui a fait aussi baisser la perception du risque, parce que la plupart de ces projets ont été structurés de façon assez stricte, avec beaucoup de sécurité. Et en fait que, si vous regardez les rapports de Moody's, l'Afrique, c'est l'un des pays où
L'agence de notation.
Voilà, l'agence de notation. L'Afrique, c'est l'un des pays où il y a le moins de défauts, finalement, sur ce type de projet par rapport à d'autres, par rapport à l'Amérique latine ou même l'Asie. Et donc, cette structuration, elle a quand même standardisé, finalement, la façon de contractualiser ces grands projets d'infrastructure et les projets d'infrastructure essentiels de tous les jours autour de l'Afrique, ce qui en fait, finalement, un marché relativement régional. Ce qui est très différent de l'Asie du Sud-Est où c'est très national et les approches peuvent être assez différentes.
Alors en ce moment, évidemment, il y a cette pandémie. Plusieurs pays africains font face à une nouvelle vague de Covid. Est-ce que la pandémie a freiné l'appétit des investisseurs pour les pays africains? Vous-même, est-ce que cette pandémie a modifié vos plans? Comment?
Pas du tout, plutôt accéléré, puisque la pandémie a appelé des plans de relance, finalement. Et même si les Africains n'ont pas eu tous accès à des plans de relance, ils ont besoin d'accélération de l'investissement. Donc finalement, pendant le premier confinement, on a plutôt observé une accélération du besoin d'investissement, une accélération des projets auprès des autorités de plusieurs pays africains du fait de leur envie d'avoir de l'investissement pour les aider à rebondir économiquement.
Quel type de projet, par exemple, ont accéléré? Est-ce que vous en avez en tête?
Tous. Je prendrais le projet, par exemple, de Nairobi Nakuru au Kenya. On a fait une grande avancée en matière des discussions et des études qui étaient en cours.
C'est quoi? Ce sont des routes? C'est quoi?
Alors, c'était un projet routier, Nairobi Nakuru au Kenya. Mais tous les autres projets, le projet de BioVea en Côte d'Ivoire, de biomasse, a aussi eu son accélération.
La génération électrique.
Voilà.
Avec EDF et un partenaire ivoirien, Sifka, c'est ça?
Tout à fait. Donc, tous ces projets se sont accélérés parce que les États se sont dit il faut qu'on se mobilise pour les autorisations, pour permettre à ces investissements de se réaliser et finalement de créer la valeur économique qu'ils sont censés créer.
Alors, ces projets, pour les financer, il faut bien sûr emprunter. Les États doivent emprunter. Et donc, la dette des États augmente d'autant, très rapidement, depuis 10 ans. Évidemment, la pandémie, elle aggrave l'endettement général. Est-ce que cela vous inquiète?
Les projets que nous réalisons, les États n'empruntent pas, qu'on soit très clair. Les projets que réalisent souvent les Chinois, les États empruntent. Qui sont des projets qui sont faits dans des relations bilatérales entre la Chine et certains États africains. Ce que nous proposons sont des projets où c'est finalement le projet qui emprunte. Hein, c'est des sociétés qui sont créées pour le but du projet qui emprunte et l'État ne garantit pas cette dette. Donc on est dans deux modèles totalement différents et qui s'opposent. Alors, il est clair que la réunion qu'il y a eu à Paris, justement, sur l'endettement des États africains nous a plutôt rassurés, dans la mesure où le Club de Paris, mais pas seulement, se préoccupe, finalement, de cette situation. La nouvelle attitude du FMI par rapport aux droits de tirage spéciaux et de ses actionnaires, évidemment, est aussi un chemin positif vers le fait qu'il faut aller vers un désendettement de l'Afrique.
Est-ce que vous êtes, vous, optimiste par rapport à ces droits de tirage spéciaux, les 100 milliards qui ont été annoncés par Emmanuel Macron? 100 milliards, c'est déjà une somme qui est inférieure aux estimations, aux nécessités du continent. On parle plutôt de 230 milliards environ. Est-ce que pour vous, ça va se faire? On en entend parler de manière cyclique, mais quand est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de concret?
Moi, j'ai entendu la directrice générale du FMI en parler de façon très positive. Donc, pour moi, c'est un signe positif. Au-delà du président de la République, quand l'institution même se met à parler du sujet ouvertement et de façon positive, c'est plutôt un bon signe. Donc, je suis plutôt optimiste.
Alors, les partenariats publics-privés, vous en parliez, hein, ces contrats à travers lesquels les États n'empruntent pas, mais il y a un partenaire financier. De temps en temps, il donne lieu à des renégociations au bout d'un moment parce que les États estiment que leurs intérêts ne sont pas suffisamment respectés. Et ça vous est vous-même arrivé l'année dernière à Nouakchott avec votre partenaire Horizon. L'État a souhaité renégocier le contrat qui entoure la construction d'un terminal à conteneurs dans la capitale. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que les partenaires privés sont trop gourmands ou est-ce que c'est une difficulté dans la négociation qu'ont les États?
Non, il y a deux choses. D'une part, nous proposons toujours dans tous les contrats que nous signons, on va dire un partage des surprofits potentiels avec les États. Donc dans la durée, y compris à Nouakchott, il y avait déjà un partage. Si on atteignait un certain niveau de trafic, des recettes avec l'État. Bon. Souvent dans ces cycles politiques et électoraux, c'est assez fréquent en Afrique, mais pas seulement.
C'est-à-dire le contrat a été signé par l'ancien président.
Voilà, les successeurs souvent remettent en question ce qui a été fait par leurs prédécesseurs, pour plein de raisons, politiques ou autres. Mais nous, on est assez confiants dans la mesure où on a signé un contrat qui était équilibré, Donc on a fait les ajustements nécessaires pour qu'ils aient gain de cause s'ils souhaitaient plus. Mais on avait un contrat équilibré qui prévoyait déjà un partage de la richesse au-delà d'un certain retour. Et donc ça n'a pas été très difficile pour nous de nous adapter à la nouvelle situation.
Vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec notre grand invité, Thierry Déo, le fondateur, le dirigeant du fonds d'investissement Meridiam, spécialisé dans les infrastructures. La parole est à Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Est-ce que dans un contexte où la crise sanitaire s'accompagne de difficultés budgétaires, on le voit notamment en Afrique centrale, où le FMI l'a appelé à une grande réunion pour mettre un peu les choses à plat, parce que c'est très compliqué, on pense à la République du Congo, Congo-Brazzaville notamment, mais pas que, il n'y a pas un risque que certains États remettent à plus tard leurs efforts en matière de développement durable, notamment dans la lutte contre le changement climatique, dont on voit les effets, de plus en plus?
Je pense que les États aujourd'hui n'ont pas le choix. Vous ne pouvez plus rien investir sans penser au développement durable. C'est pas l'un ou l'autre. c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que tout ce que nous construisons, vous aviez parlé tout à l'heure du barrage de Kingele. Il a été revu, étudié, modifié, réduit dans sa taille, ne serait-ce que pour un sujet de biodiversité. On a mis 2 ans à vraiment trouver la bonne solution qui faisait le moins de dégâts possible en matière de biodiversité. Ce sont des sujets qui sont intrinsèques au développement économique et à l'investissement dans les infrastructures. Donc il n'y a pas de l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps.
Et vous, alors, à titre personnel, vous avez choisi pour Meridiam le statut d'entreprise à mission, hein, on l'a dit au début, permis par la loi Pacte. Ça veut dire, entre autres, que vous avez une responsabilité environnementale accrue. Ça irrite d'ailleurs beaucoup vos concurrents. On trouve ça un petit peu hypocrite. Est-ce que c'est du greenwashing? Alors, dites-nous un petit peu, quand on construit des infrastructures dans le solaire, l'éolien, ok, on comprend, c'est bien du verdissement, c'est bien de la transition énergétique. Quand on construit des aéroports, des routes, c'est aussi des infrastructures qui aggravent la pression sur le climat. Comment est-ce que vous conciliez ça?
Pas forcément. Ça dépend comment vous les construisez. Donc déjà, tout ce que vous construisez, vous devez prendre en compte les impacts environnementaux et les minimiser au maximum, les compenser ou trouver des solutions pour qu'il n'ait pas lieu. Donc c'est déjà dans la démarche. Vous savez, on construit des aéroports où l'énergie est totalement propre, où l'eau est réutilisée, où les ressources, où les déchets sont retraités.
C'est le cas à Madagascar ?
C'est le cas à Madagascar. Et donc, on n'est pas dans une démarche de tout ou rien. C'est-à-dire que ces infrastructures sont aussi des infrastructures économiques qui remplissent des objectifs de développement durable. Parce que ces pays ont besoin de création de richesses économiques, notamment pour pouvoir donner accès à des emplois relativement bien payés à des populations fragiles, notamment les femmes. Donc, vous voyez, dans un projet, il y a plusieurs types d'objectifs de développement durable que vous pouvez remplir. Donc c'est pour ça que nous avons choisi 5 axes. Donc le climat, c'est un des axes, hein, puisqu'on mesure la température de nos portefeuilles et qu'on regarde l'alignement de nos portefeuilles avec l'accord de Paris et les 2 degrés ou 1,5 degré. Mais on regarde aussi la capacité logistique du pays, en quoi c'est développé. On regarde la biodiversité. Donc on a ces 5 axes. L'accès à l'énergie propre à coût bas. Et on regarde ces axes.
Une précision, certains fonds nés après le vôtre grandissent plus vite et on entend dire que c'est parce qu'ils prennent moins en compte ces choix environnementaux. Est-ce que ça veut dire que vous acceptez quelque part de brider votre croissance pour être conforme à votre éthique des affaires ?
On bride notre croissance pour avoir le choix de ce dans quoi on investit. Vous savez, quand vous avez trop d'argent, vous avez tendance à investir un peu dans n'importe quoi. Alors, je ne sais pas pour les autres fonds, hein. Mais en tout cas, notre politique, c'est d'ajuster les levées de fonds que nous faisons à ce que nous pensons pouvoir investir dans des projets qui font du sens pour nous et qui ont cet impact. Donc, c'est plus de restrictions en matière de choix. Le filtre est plus fin. Mais en tout cas, on vit bien avec.
C'est-à-dire que la levée de fonds dont vous nous avez parlé, dont vous ne pouvez pas parler. Vous avez déjà les projets qui vont être financés, ils sont déjà identifiés?
Ah, mais bien sûr, parce qu'on a en Afrique une équipe de 30 personnes dans deux bureaux aujourd'hui, et un troisième qui va ouvrir à Johannesburg, mais aujourd'hui à Addis Abeba et à Dakar, qui sillonnent le continent, qui ont des projets identifiés. Vous savez, nos projets sont des projets qui ont des durées de gestation de 2, 3 ans, voire 4 ans des fois. Donc, ce qu'on va investir l'année prochaine, on le connaît déjà. Et si on a dû lever un deuxième fonds, c'est parce qu'on était arrivé au bout du premier et que avec la petite quinzaine de projets que vous avez mentionnés, on avait pu investir la totalité du fonds. Donc,
parmi les pays qui ont fait rêver les investisseurs ces dernières années, il y a l'Éthiopie. Mais depuis plusieurs mois, la situation a quand même radicalement changé. Il y a la guerre contre les rebelles de la province du Tigré, il y a les fortes tensions avec l'Égypte et le Soudan à propos du remplissage du barrage de la Grande Renaissance qui vient de passer un deuxième stade. Est-ce qu'on est en train là aussi passer du rêve au cauchemar pour les investisseurs?
J'espère que non, parce que le cauchemar...
Vous-même, vous êtes présent en Éthiopie. Hein,
nous sommes très
présents. Et vous avez reçu, il n'y a pas longtemps, une assurance MIGA pour vous couvrir contre un certain nombre de risques.
Oui, mais ça, c'est systématique. Mais non, mais le cauchemar pour être
assurance
pour tout le monde...
Assurance MIGA de la Banque mondiale. Hein.
Tout à fait, qui est une assurance contre la rupture de contrat et le risque politique. Le vrai sujet de l'Éthiopie, c'est un pays fondamental dans la stabilité de cette sous-région de l'Afrique. Donc le cauchemar pourrait ne pas être que pour les investisseurs. Ça pourrait être un cauchemar sécuritaire, ça pourrait être un cauchemar économique. Donc je pense que tout le monde œuvre... que ce soit l'Union européenne, la France ou les États-Unis aujourd'hui, pour ramener le calme et la négociation pour arriver à bout à ces tensions.
Alors, vous avez évoqué aussi l'Afrique du Sud, où vous avez des projets, une Afrique du Sud qui, en ce moment, est elle aussi en pleine crise. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur les projets sud-africains. Et puis aussi, j'ai une question sur le Soudan, un pays qui a obtenu récemment une annulation partielle de dette. On voit que les investisseurs sont à l'affût. Est-ce que ce pays vous intéresse?
C'est toujours difficile de dire publiquement les pays qui nous intéressent ou pas. Néanmoins,
est-ce que c'est un pays intéressant?
C'est un pays intéressant. C'est un pays intéressant. Néanmoins, avant d'investir dans un pays, et je parlais de transparence et je parlais aussi de capacité administrative des pays, parce que pour signer des contrats complexes, de long terme, faire des études, on a besoin d'une administration adaptée, qui ait les compétences, qui puissent engager les bons conseils. Donc on priorise les pays dans notre propre nomenclature, sont ceux qui ont, on va dire, la capacité administrative la plus forte. C'est-à-dire la capacité à être un partenaire de long terme avec un investisseur privé la plus forte. Donc c'est un peu comme ça qu'on choisit nos pays et qu'on s'y investit, parce qu'il faut s'y installer, il faut bien connaître le milieu local, les entreprises locales, les partenaires locaux pour y arriver.
Ça veut dire que c'est pas encore tout à fait le cas du Soudan ?
Ça pourrait l'être bientôt.
Alors, sur le continent africain, les gouvernements sont les premiers financeurs des infrastructures et la Chine arrive en deuxième position. La Chine et ses routes de la soie qu'elle tisse tout autour de la planète inquiètent de plus en plus les Occidentaux, Américains en tête. Pour contrer son influence, les pays riches veulent investir massivement dans les infrastructures africaines. L'annonce a été faite lors du dernier G7. Les détails avec Cléa Broadhurst, qui était l'envoyée spéciale de RFI au sommet organisé au Royaume-Uni dans les Cornouailles.
Pékin est officiellement en ligne de mire des dirigeants du G7. Pas mentionné il y a encore 3 ans dans les communiqués du sommet, la Chine est clairement présentée aujourd'hui comme une rivale, une concurrente, voire un adversaire. Et la concurrence est à l'œuvre. Pour relancer une économie plus verte, les 7 vont investir massivement 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures des pays défavorisés en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine. Initiative pour un avenir plus vert, certes, mais aussi une façon de contrecarrer les avancées de la Chine. Lancé à l'initiative de Joe Biden, le projet doit concurrencer les nouvelles routes de la soie, ces investissements massifs de Pékin pour accroître son influence à l'étranger. Ce projet chinois a été lancé en 2013 par le président Xi Jinping. Selon les données des marchés financiers de l'infrastructure de l'année dernière, on parle de plus de 2600 projets représentant au total près de 3000 milliards d'euros liés à cette route de la soie. Près de 100 pays ont déjà signé des accords avec Pékin pour développer des liaisons ferroviaires, des ports, des autoroutes ou d'autres types d'infrastructures. Claire Broder, Stéphane Mouth, RFI.
Julien Clémenceau, une question pour Thierry Déo.
Thierry Déo, pensez-vous comme d'autres que l'Europe doit faire cause commune avec les États-Unis pour contrer l'offensive économique chinoise et qu'il est important en Afrique de ne pas leur laisser le champ libre ?
Alors, je pense que l'Europe et les États-Unis doivent réunir leurs forces pour aider l'Afrique à se développer. C'est ça l'important.
C'est pas ce que font les Chinois.
Alors, ils le font autrement. C'est ce que je disais. Il ne faut pas que le développement des infrastructures ait comme résultat un surendettement des États, parce que ce n'est pas soutenable. Donc, il faut un développement qui soit durable, soutenable. Et donc, il faut pouvoir organiser. Et si vous regardez dans les lignes du Build Back Better du G7, vous verrez bien qu'ils souhaitent impliquer le secteur privé et les investisseurs privés pour avoir le maximum de leviers possibles de l'argent public pour aider l'Afrique. Donc c'est dans ces partenariats publics-privés en toute transparence et sans endettement des États monstrueux qu'on peut arriver à avoir un développement durable. Donc c'est une autre vision des choses. On peut peut-être faire plus vite en empruntant beaucoup, mais au bout d'un moment, on arrive au bout de ses capacités. Donc le tout, c'est de pouvoir continuer à investir.
Et dans les discussions que vous pouvez avoir avec des responsables africains, est-ce que vous sentez que cette initiative est bienvenue, sachant qu'il y a de plus en plus de pays, de puissances grandes ou moyennes, qui affluent en Afrique et qui proposent aussi des investissements ?
Cette initiative est bienvenue parce que c'est le renforcement, en tout cas l'affirmation à très haut niveau, au niveau du G7 peut-être pour la première fois, de ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que les agences bilatérales comme l'AFD, Proparco, comme l'ancienne OPIC, DFC américaine font déjà ça. Soutiennent des projets, soutiennent la préparation des projets, comme le font les Anglais, comme le fait la Banque mondiale et la SFI. Le système est déjà en place. Il s'agit de l'accélérer, de l'amplifier et d'aller plus vite. Et de pouvoir mobiliser plus de capitaux et autour de plus de projets.
Alors, vous avez cité DFC. Justement, on pouvait lire il y a quelques jours dans la presse américaine que l'objectif pour Joe Biden, c'est évidemment d'être au service des entreprises américaines. Il y a déjà pas mal de projets DFC qui sont en route dans d'autres régions que celle de que l'Afrique. Est-ce que ce plan ne risque pas d'être un plan labellisé international, mais finalement plutôt au service des États-Unis, qui ferait un peu un retour en Afrique où on les a moins vus?
D'abord, DFC fait de l'intervention non liée. Pour être clair, il n'y a pas besoin d'être américain pour bénéficier. Meridiam en bénéficie souvent. Donc, on n'a pas besoin d'être labellisé américain. Et DFC travaille souvent en collaboration avec les autres agences bilatérales et multilatérales. Donc, on est vraiment dans réunir les forces pour faire plus, plus vite et mieux que dans des stratégies purement américaines.
On vous associe souvent, Thierry Déo, au président Emmanuel Macron, que vous avez accompagné plusieurs fois en Afrique. Vous avez aussi expliqué, vous aviez soutenu sa campagne, après avoir soutenu celle du candidat socialiste à l'échéance précédente. Est-ce que vous pensez que le président français, on se souvient de son discours à Ouagadougou, a réussi dans sa volonté de renouveler, de moderniser sa relation avec l'Afrique, la relation française avec l'Afrique ?
Je le pense, oui.
Est-ce que vous avez des exemples de ce renouveau ?
Il me semble que, ne serait-ce que la vision qu'ont les investisseurs aujourd'hui du rapport de la France avec l'Afrique, a changé.
C'est-à-dire que les investisseurs français ?
Les investisseurs français, mais aussi les autres Européens, puisque la France a quand même une relation privilégiée avec l'Afrique, et les investisseurs européens qui sont dans nos fonds pour l'Afrique, ils sont suédois, ils sont anglais, ils viennent aussi parce que nous sommes un chemin français vers l'Afrique. Et donc cette vision a changé, la perception a changé, c'est surtout la perception de la relation qui a changé, qui est plus une relation partenariale et puis une relation d'investissement. Et c'est peut-être aussi pour ça que, parce que nous, quand on va investir, on vient pas prendre des contrats, on vient pas piller, on vient pas prendre des ressources. On vient investir en attendant un retour sur 25 ans. Et donc ça, c'est une relation totalement différente, qui est une relation finalement de co-développement et de se dire comment on peut avoir une relation partenariale différente avec l'Afrique.
Vous avez cité les partenaires européens, mais le pays européen le plus puissant, l'Allemagne, Angela Merkel voulait un plan Marshall pour l'Afrique, mais en fait, les entreprises allemandes, elles n'ont pas l'air de vraiment suivre et de mordre à cet hameçon pour l'instant.
Mais après, il faut répondre aux besoins des Africains. Quels sont les besoins des Africains aujourd'hui? C'est finalement la transition vers une économie bas carbone, mais avec des infrastructures essentielles qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui. Donc, pour la plupart, ils ont encore besoin d'énergie pour s'industrialiser. Ils ont encore besoin d'eau et le traitement des déchets, des choses, finalement, des infrastructures essentielles, transport, mobilité, la logistique, comment exporter la récolte du fin fond du pays au port. Tout ça, c'est de l'essentiel. Les entreprises allemandes qui sont en Afrique, il y en a qui sont dans ces domaines, notamment de logistique. Et il y en a beaucoup qui sont plutôt sur l'industrie automobile. Donc forcément, la France a une tradition, de par ses entreprises de services de construction, qui est naturellement tournée vers cette demande d'infrastructures essentielles. Les Allemands, c'est un peu autre chose. C'est plus l'industrie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ils regardent juste des choses différentes des nôtres.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Thierry Déo, on ne vient pas prendre des contrats, on vient construire des infrastructures. Une des critiques souvent faites aux grands projets d'infrastructures, c'est justement que ces projets ne peuvent pas impliquer des entreprises locales et faire émerger des champions nationaux ou régionaux. On l'a beaucoup vu en Côte d'Ivoire, où il y a eu énormément d'efforts faits sur les infrastructures. Et c'est une critique récurrente du secteur privé ivoirien que de dire... C'est bien de confier des contrats à Bouygues, mais nous, on a besoin aussi, on représente 40% de la zone économique du MOA, on a besoin d'avoir des champions qui vont se développer au niveau régional. Comment on arrive à conjuguer ce besoin d'infrastructure et aussi l'émergence de champions nationaux et régionaux qui vont réinvestir localement?
Ben, d'abord, il est possible, dans les grands contrats, de réserver des parts pour les PME locales. Et en fait, il faut le faire de façon systématique, parce que c'est la seule façon, en tout cas nous, quand on regarde nos projets sous l'angle impact et qu'on veut un maximum d'emplois durables créés, c'est la question qu'on se pose tout de suite. Donc quand vous vous posez les bonnes questions, vous arrivez aux bonnes réponses.
C'est quoi à peu près le bon... Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans vos contrats?
Dans la mesure... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la taille. Souvent... Pour garantir la bonne fin de grands chantiers, il faut quand même des gens qui aient des bilans importants. Donc c'est aussi pour ça que les entreprises internationales ont un avantage, parce que souvent les PME locales ne sont pas capables de prendre des chantiers de centaines de millions ou de milliards. Mais par contre, elles peuvent être impliquées dans la sous-traitance de façon, et il y en a besoin, de toute façon elles le sont toujours, mais ça peut être mieux organisé, pour mieux distribuer finalement les bénéfices. Et ça créera de l'emploi local durable et de la formation. Ce qu'on a fait au Sénégal, quand on a commencé, aujourd'hui on a à peu près 20% de la production du Sénégal en électricité qui est solaire, mais on a aussi créé avec l'université de Dakar un centre de formation aux énergies renouvelables pour former des techniciens, et aujourd'hui les gens qui font la maintenance sont des gens locaux, et ils sont aussi capables à terme, avec ce centre de formation, de fournir de la main-d'œuvre à tous les autres projets qui pourront se développer. Donc il faut avoir de la suite dans les idées, mais en pensant à l'impact final. Mais c'est possible. Donc je comprends bien qu'on reproche cela aux grands contrats, mais je pense que toutes les entreprises, notamment les entreprises européennes, aujourd'hui font attention, parce que les multilatéraux et les bilatéraux aussi sont très conscients.
Donc il y a eu des abus, mais maintenant on les corrige et on essaye de participer au développement de ce secteur privé africain.
L'un des premiers investisseurs français sur le continent africain, c'est le groupe Bolloré, un groupe de plus en plus défié dans son activité portuaire, entre autres par Arise, la filiale du Singapourien Olam, avec qui vous avez un partenariat, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous différencie de l'approche de Bolloré dans son approche du continent africain?
qui nous différencie de nous. Bah, d'abord, ils ont une présence historique que nous n'avons pas. Donc, nous sommes plus légers sur beaucoup plus d'aspects. Bon, après, c'est un groupe industriel qui s'intéresse à la gestion et à la logistique. Nous, notre intérêt, c'est d'investir dans les infrastructures et d'en trouver les fruits. On est un peu souple sur le reste. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Peut-être notre angle. Vous savez, on travaille aussi avec eux, on discute avec eux. Hein. Peut-être notre angle ESG Impact qui, en fait...
Donc, ESG, c'est les objectifs du développement durable.
Voilà, c'est les objectifs du développement durable. Tout ça, ce sont des choses qui parlent aux collectivités et qui parlent aux populations qui reçoivent, mais sur des bases, on va dire, plus scientifiques que politiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir parler emploi créé, de pouvoir parler développement économique par nos investissements, plus que d'être copain avec un tel ou un tel. Enfin, la durabilité de nos investissements est totalement liée à notre capacité à créer un impact positif sur les populations.
La France, elle est régulièrement conspuée en Afrique, critiquée pour sa présence militaire. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, c'est une difficulté supplémentaire? Est-ce que vous devez faire de la pédagogie par rapport à ça?
Écoutez, la France... Vous savez, c'est toujours c'est une cible facile. C'est-à-dire, ceux qui demandent l'aide militaire sont les premiers à dire qu'elle ne devrait pas être là.
Mais compte tenu de l'histoire, on ne peut pas négliger cette dimension.
On ne peut pas négliger cette dimension. Mais d'abord, la France n'est pas seule en Afrique dans sa présence militaire. Et elle y était pour une raison de protection du continent africain et du continent européen aussi. Donc, elle n'était pas là en mission de colonisation. Donc, voilà. Après, ce sont des débats. Vous savez, dans les discours et les batailles politiques, la France est souvent prise comme otage de beaucoup de choses. Après, il faut rester aux faits. La France reste un partenaire fidèle de beaucoup de pays africains, de cette région, qui veut y investir, qui veut son développement et qui, je pense, a vraiment essayé de changer sa relation avec le continent africain.
Donc, ce n'est pas un problème pour un investisseur?
Non.
Vous faites partie de cette minorité de Français qui travaillent en Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français évoluent dans leur perception du continent?
Bah, ils évoluent, mais ça prend un peu de temps. Mais c'est qu'il faut leur raconter les plus belles histoires. Il faut que les médias comme vous leur racontent des vraies histoires économiques, des vraies réussites économiques. Il y en a plein sur le continent africain. Et donc ça peut leur faire changer la perception et leur donner envie. Si vous ne leur racontez que des histoires de guerre, de famine et de guerre tribale, alors qu'il n'y en a pas forcément beaucoup plus qu'ailleurs, mais les zooms sont tellement portés sur ce qui va mal et pas sur les réussites que voilà. Et c'est ça qu'il faut changer.
Avant 2015, vous n'étiez pas en Afrique. Meridiam ne travaillait pas en Afrique, 2014-2015. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que c'est la lecture de rapports macroéconomiques? Ou est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des gens, des discussions qui vous ont fait évoluer et qui vous ont fait prendre conscience de ce que vous nous racontez, c'est-à-dire à la fois des besoins immenses et du potentiel?
Ben avant d'aller en Afrique, on a étudié la question pendant 2 ans. Donc on avait l'Afrique en balance avec l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. Et donc il y a eu l'aspect macroéconomique, mais il y a aussi ce que je vous décrivais un peu plus tôt, c'est un vrai marché quand on pense infrastructure en matière de standardisation de contrats, en matière d'approche similaire des différents pays et qui permet, on vient d'Europe, pour pouvoir se déployer, il faut être local pour faire des infrastructures. Et donc c'est beaucoup de moyens à déployer assez rapidement et puis pour sécuriser aussi ces investissements. Et donc c'était pour nous à la fois la combinaison de l'histoire macroéconomique, mais aussi d'une capacité de faire la différence beaucoup plus rapidement en Afrique qu'on ne pourrait le faire ailleurs.
Alors, l'Afrique, c'est un continent jeune, avec une jeunesse qui bouge beaucoup, qui est de plus en plus formée, qui va voir ailleurs, et puis qui a de plus en plus envie de revenir. On parle de plus en plus des fonds de la diaspora. Est-ce que c'est un pilier sur lequel vous pourriez vous appuyer déjà pour financer des projets sur le continent ?
Alors, moins sur les fonds de la diaspora, mais sur les compétences humaines de la diaspora. Je pense que c'est le plus facile d'accès, et puis aussi le plus concret en matière de contribution. Mais dans nos bureaux africains, on a des Africains. Alors souvent, ils ont été formés en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, mais on a des Africains. Voilà. Et c'est cela qu'il faut utiliser, qu'il faut faire monter en compétences. Et donc, ils viennent d'une diaspora qui est revenue. Et c'est cela l'avenir de l'Afrique. Bon, pour les fonds, je pense que c'est pas anecdotique, mais vu les volumes qu'il faut mobiliser pour faire les infrastructures essentielles, ça peut pas être suffisant, les fonds de la diaspora. Donc moi je préfère m'appuyer sur les compétences de la diaspora.
Mais alors ces populations qu'on appelle les ripates en général, quand elles reviennent, elles ont été formées à l'extérieur, elles ont souvent fait une première partie de carrière en Europe ou aux États-Unis. Et elles accèdent aux emplois, je dirais souvent les plus intéressants, dans les projets les plus dynamiques. Est-ce qu'il y a pas un risque de fracture avec toute la jeunesse qui a, même la jeunesse éduquée, mais qui a grandi localement, qui n'a pas eu cette possibilité de partir à l'étranger pour ensuite revenir et participer aux plus beaux projets d'infrastructures dans leur pays, que ce soit des routes, des ponts, des barrages?
Je ne vais pas vous parler de ruissellement, ça va vous faire sourire, mais il y a quand même un partage, parce que vous pouvez former sur place ceux qui reviennent. À partir du moment où ils acceptent ce type de projet, ils peuvent aussi former sur place. Et c'est pour ça que les actions de formation, de développement humain qui accompagnent ces projets sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, vous prenez l'Éthiopie, elle forme des ingénieurs de très bonne qualité, qui ne sont pas forcément allés à l'étranger. Donc peut-être que ceux qui ont eu la chance de passer au lycée français, de faire une école d'ingénieurs française et de revenir, peuvent apporter cette compétence supplémentaire aux jeunes techniciens ingénieurs éthiopiens. Et ça se passe très bien.
Mais là, c'est une question plus politique, mais il y a donc besoin de cet échange en permanence. Et on se souvient que il y a quelque temps, le gouvernement avait eu l'idée d'augmenter les droits d'admission dans les universités. Le risque, c'était d'avoir moins d'Africains qui viennent se former en France. Quel est votre sentiment par rapport à ce type de nouvelles réglementations? Est-ce que c'est une bonne chose de dissuader les Africains de venir étudier en France, puisque, vous le dites, une partie repart dans leur pays d'origine ou dans la région et partage les connaissances acquises?
Ben non, c'est une bonne chose de faire venir des étudiants africains en France.
Donc il faut faciliter leur venue, alors.
Tout à fait. Il faut faciliter leur venue, et puis c'est encore mieux s'ils retournent et qu'ils aient reçu une éducation française, une formation. C'est absolument positif pour la relation que la France pourra avoir avec leur pays d'origine dans le futur.
Thierry Déo, pour terminer, une question sur cette campagne de vaccination, cette campagne mondiale qui est ratée, qui est une inégalité totale d'accès aux vaccins entre le Nord et le Sud. L'Afrique en souffre particulièrement. Quelle est votre position là-dessus et quels sont les actes que vous avez envisagés ou peut-être que vous avez déjà réalisés avec votre fonds pour changer les choses?
Depuis le début de la pandémie, nous avons en fait contribué à pas mal de fonds de développement, enfin de fonds d'urgence dans ces pays, au Sénégal, en Jordanie, en Éthiopie, à la fois de façon purement financière, mais aussi en aidant à l'import de masques, aux respirateurs. C'était le cas à Madagascar, par exemple. Alors sur le programme vaccinal, c'est plus compliqué, à part puisque il y a un système mondialisé Ecovax qui permet l'achat. Donc on peut soutenir de façon financière, mais on peut rarement acheter des vaccins et les ramener dans un pays soi-même. Donc on essaye, dans notre rôle de responsabilité locale, dans tous les pays où on est, de soutenir ces programmes pour les accélérer.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Thierry Déo, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. On retiendra une info dévoilée sur l'antenne de RFI. Meridiam veut doubler la mise en Afrique. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Stanislas Ndaichimier, Yves-Laurent Goma, Cléa Broadhurst et à la réalisation Guillaume Munier. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison. On parlera du tourisme africain à l'épreuve du Covid-19. Bon week-end à tous avec RFI. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'info.
Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI.